Fun for you avec Partenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, je m'appelle Simon, je suis très content de vous retrouver. Bienvenue dans le podcast Fun for you, podcast que vous retrouvez sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast. Chaque semaine, on s'intéresse à des thématiques qui parlent du bien-être, de la santé et de la vie intime. Et chaque semaine, c'est un expert qui m'accompagne. Et cette semaine, c'est notre psychologue Pénélope. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille notre psychologue Pénélope qui est avec moi en studio. Salut Pénélope.
Salut Simon.
Comment ça va Pénélope?
Ça va très bien et toi?
Ben ça va très très bien, très content de passer un petit moment avec toi puisqu'on va s'intéresser au burn-out. Finalement Pénélope, en quelques mots, c'est quoi le burn-out?
Alors comme tu le sais, aujourd'hui c'est devenu quelque chose dans le langage courant qui est assez familier. On entend souvent quand même des gens nous dire « je suis en burn-out » et c'est vrai que parfois on l'utilise un peu à tort pour désigner quelque chose de l'ordre d'une grosse fatigue, d'un manque de motivation. On sait qu'aujourd'hui le burn-out c'est vraiment un phénomène qui est très spécifique. Et donc, c'est de l'ordre d'un épuisement profond qui va être à la fois physique, psychologique et émotionnel et qui survient plus particulièrement quand il est exposé trop longtemps à un stress professionnel chronique. Donc, il se répète régulièrement. C'est pas un coup de pompe passager, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment une usure qui va s'installer de manière insidieuse et qui peut à un moment arriver à un effondrement complet où on n'arrive plus à fonctionner normalement au niveau de la vie quotidienne. Donc au niveau du travail bien sûr, mais ça va avoir un impact au niveau de la vie quotidienne. Pour te donner une idée, les chiffres qu'on a en Belgique sont assez parlants. En 2023, on avait plus de 130 000 personnes qui étaient reconnues en incapacité de travail longue durée à cause d'un burn-out ou d'une dépression qui était liée au travail.
D'accord.
Et donc on a une augmentation d'à peu près 40% en 5 ans, donc c'est quand même énorme. C'est un phénomène qui concerne toutes les professions et qui va avoir un impact plus marqué au niveau des métiers de soins, des métiers de l'éducation, des métiers de service et alors aussi chez les jeunes travailleurs dont le nombre de cas a bondi de plus ou moins 20% en un an.
J'ai quand même l'impression que le burn-out c'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai l'impression que soit on en parle de plus en plus ou c'est un concept, c'est quelque chose qui est assez neuf. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou c'est vraiment quelque chose qui vient d'arriver dans la société?
Alors t'imagines que ça, l'expression burn-out est apparue dans quel, plus ou moins à quelle année?
Je dirais assez récemment, moi je dirais 2010.
Alors en fait, le terme, il a commencé à être utilisé dans les années 1970.
Ah ouais.
Et donc ça décrivait en tout cas ce que vivaient des professionnels qui étaient très investis dans leur boulot. Donc comme je le disais, particulièrement métier de soins, métier d'aide, métier d'éducation. Et donc on a remarqué que ces personnes, après quelques années d'engagement, un engagement qui était quand même très intense, semblaient brûlées de l'intérieur. Burn-out, ça veut dire brûler. Et donc finalement, elles perdaient leur énergie, elles perdaient leur motivation et parfois elles perdaient aussi leur capacité d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre sent. Et dans les métiers de soins, évidemment, c'est une qualité qui est quand même fondamentale. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Les années 70, c'est une période où le travail prend une place croissante au niveau de l'identité et de la réussite sociale. Donc c'est quelque chose qui va aussi se transformer, hein, le monde professionnel. Ça va devenir de plus en plus compétitif, de plus en plus exigeant. Il va y avoir une valorisation de la performance et de la productivité. Le burn-out va émerger comme une réponse de l'être humain à des conditions de travail qui sont déshumanisantes, en fait. Alors, il y a eu une évolution, évidemment, au niveau de la notion de burn-out. Donc, au début, comme je te le disais, ça a été cantonné aux professions qui sont plutôt les professions d'aide. Et progressivement, le concept, il va s'élargir à plein de secteurs. Les entreprises, le service, les métiers créatifs, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, finalement, le burn-out, il peut toucher n'importe qui, que ce soit un jeune diplômé jusqu'à un enseignant expérimenté, en passant du soignant à l'ingénieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va toucher toutes les sphères professionnelles.
Et est-ce qu'on peut parler d'un burn-out quand on n'est pas dans le milieu professionnel? Par exemple, un burn-out étudiant, ce genre de choses, c'est des choses qui existent. Ou alors, c'est vraiment pas le terme approprié?
Alors, c'est vrai que le terme burn-out, il va être vraiment associé à l'aspect professionnel. Maintenant, on peut considérer, par exemple, qu'un étudiant, quand on est étudiant, on est dans les prémices de la vie professionnelle. Je pourrais même te dire que moi, j'ai déjà j'ai une patiente, par exemple, qui est très âgée et qui est pensionnée depuis très longtemps. Mais dans son contexte de vie, il y avait plein de choses qui faisaient qu'elle était débordée par toutes les tâches à faire. Et finalement, ça ressemblait très fort à un burn-out. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait plutôt de d'épuisement, de la vie quotidienne, ce genre de choses. Donc le terme burn-out est associé au travail, mais finalement il y a des formes qui lui ressemblent, même dans d'autres contextes.
Et donc, à quel moment est-ce qu'on peut se dire là je fais un burn-out ? C'est quoi les symptômes qu'on ressent quand on fait un burn-out ?
Alors c'est vrai qu'il y a un ensemble de symptômes et progressivement ils vont se renforcer. Donc au début ça va être en mode léger et puis petit à petit, s'ils sont pas pris en charge, s'ils sont pas soignés, les choses vont s'aggraver. Donc on va vraiment avoir trois étapes dans les symptômes. D'abord les signaux précoces, donc les signaux du tout début, les signes installés et puis il y a vraiment l'effondrement derrière. Donc au niveau des signaux précoces, on va dire qu'on est dans la phase d'alerte. C'est le moment où il serait intéressant de s'en inquiéter. Ça permettrait d'éviter d'aller trop loin. Donc on va avoir des symptômes qui peuvent sembler assez bénins, mais qui indiquent déjà qu'il y a un déséquilibre.
Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'installer.
Exactement. Alors on va avoir une fatigue qui va être inhabituelle. Donc par exemple, tu rentres le soir, tu te sens vidé en permanence, pas d'énergie. Par exemple, pour tes loisirs. Donc moi, je dis toujours attention à mes patients qui font un burn-out. Si à un moment, les loisirs, on n'a plus envie de les faire, c'est mauvais signe. Alors, si on n'a plus envie une fois parce qu'on est vraiment fatigué, ça va. Si ça se répète, c'est pas bon. Les troubles du sommeil aussi sont très présents. Donc, on va avoir des difficultés à s'endormir. Pourquoi ? Parce qu'on rumine, hein, t'as l'esprit qui tourne tout seul. On va avoir des réveils nocturnes avec des pensées qui vont être liées au travail. Donc, on n'oublie pas qu'on est dans le contexte du travail. Donc, souvent, ça va être lié au travail. Les petits oublis aussi. On va perdre ses clés, on va oublier un rendez-vous, on va avoir du mal à se concentrer. L'irritabilité qui va arriver... Perte de patience, par exemple, avec tes collègues, alors que d'habitude, c'est pas un problème et que c'est des collègues sympas. Parce que s'ils sont pas sympas, c'est autre chose. Perte de patience aussi avec l'entourage, avec les proches, ce genre de choses. Il y a la sensation aussi de pression constante. Donc, on a l'impression qu'on ne va jamais arriver à aller au bout de ces tâches. Elles vont toujours être en pression derrière. Donc, tu as une sensation comme ça intérieure où tu es toujours sous tension. Puis, on va avoir, comme je le disais, les signes installés. Donc là, on est plutôt dans la phase de résistance. Donc si le stress, tous ces stress se prolongent, le corps et l'esprit, ils vont s'adapter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller tirer dans nos réserves. Mais évidemment, ça va avoir un coût. On va avoir donc une fatigue qui va devenir persistante, même après un week-end, même après avoir été en vacances, la fatigue va persister. Les douleurs physiques qu'on va avoir, les maux de tête vont être plus fréquents, les douleurs musculaires vont être plus présentes, les problèmes digestifs vont commencer. On va avoir aussi une baisse de motivation. On va faire le minimum et en plus on le fait vraiment en traînant des pieds, hein, pas d'enthousiasme. On va s'isoler de manière plus importante, on va avoir moins de contacts sociaux, on va avoir un désintérêt des activités loisirs, hein. Je parle évidemment tout ce qui va normalement nous faire plaisir quand on sort du boulot, tout ça s'efface. On va avoir plus de cynisme, plus de détachement. On va faire des blagues un peu limites, on va prendre de la distance, on va être plus froid. Et puis on va faire plus d'erreurs évidemment, on perd en efficacité et donc on a une baisse de qualité au niveau du travail. Et puis la dernière phase, c'est la phase de rupture. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'effondrement. Et donc là, le burn-out est vraiment à son maximum. C'est souvent le moment où le certificat arrive. En fait. Donc le burn-out est déjà en phase d'installation, mais souvent quand les gens arrivent avec le certificat, c'est le moment où l'effondrement est présent. On n'arrive pas à tenir sur la longueur et donc l'épuisement va être au summum. Hein. On ne sait plus se lever, on n'arrive plus à faire les tâches, même des tâches simples du quotidien. Au niveau émotionnel, on s'effondre aussi, crise de larmes, anxiété intense, on peut avoir des crises de panique qui même apparaissent. Et puis une impossibilité à travailler, évidemment, une sensation d'un blocage, une incapacité à répondre à un mail, ça te paraît une montagne, alors que bon, en soi, répondre à un mail, ça paraît quelque chose d'assez anodin, voire on sait même plus aller sur son lieu de travail. On peut avoir des gens qui vont avoir des manifestations, envie de vomir par exemple, en prenant le bus qui est le bus de leur ligne habituelle pour le boulot. On va avoir aussi une perte de sens, donc l'impression que le travail n'a plus de sens, il est vide, et puis que nous, finalement, on ne vaut pas grand chose. Et puis, bah, évidemment, il y a le risque de dépression et d'idées suicidaires qui peut s'enchaîner. Hein. Il y a eu comme ça des suicides sur même des lieux professionnels. Je pense entre autres en France, dans une compagnie de téléphone, il y, y avait eu des suicides sur le lieu de travail. Et donc ça, en général, c'est vraiment quand on a été beaucoup trop loin et qu'il n'y a pas de prise en charge. Et donc là, on bascule vers des pathologies qui sont beaucoup plus graves.
Et c'est quoi les conséquences de tout ça, finalement ?
Alors, on peut avoir différents aspects qui vont être touchés. La santé, la vie personnelle, la vie professionnelle et au niveau des conséquences sociétales. Donc, au niveau de la santé, on a des troubles qui vont apparaître, comme les troubles cardiovasculaires, d'hypertension, des palpitations. On peut avoir des maladies métaboliques, des prises de poids, du diabète qui va être lié au stress. On peut avoir de la dépression et des dépressions sévères, de l'anxiété chronique et des troubles cognitifs, comme la mémoire, la concentration qui sont défaillants. Au niveau de la vie personnel, on va avoir des relations qui vont être plus tendues, donc des disputes au niveau familial, perte de patience, éloignement du conjoint, des sentiments de culpabilité qui vont apparaître, je ne suis pas un bon parent, je n'assure plus, puisque malgré tout, ça arrive dans le travail, mais ça a des conséquences dans ta capacité à faire des tâches, même à la maison. Et puis un isolement social, plus de sorties, plus de contact avec les amis. Au niveau de la vie professionnelle, de l'absentéisme qui va se répéter, on va avoir des arrêts au niveau du travail prolongé, donc il y a un risque de perte d'emploi et donc parfois il va avoir une reconversion qui va devoir être forcée. Il y a un désengagement, perte d'intérêt pour sa carrière et rejet éventuellement de son métier, même si c'est un métier qu'on aimait. Et puis au niveau sociétal, on sait qu'en Belgique, le burn-out, ça coûte des milliards d'euros par an en indemnité d'incapacité de travail et en perte de productivité. Et puis il y a aussi un impact très important sur des secteurs clés comme la santé, l'éducation, les services sociaux, puisque c'est dans ces cadres-là que les burn-out sont les plus fréquents.
Et c'est quoi les signes auxquels il faut être attentif pour éviter justement de tomber dans le burn-out ?
Par rapport à toi-même, parce que tu peux aussi être attentif au burn-out des autres, l'air de rien, parce que souvent la personne qui est en burn-out s'en rend pas trop compte, alors qu'en général les proches sont déjà un petit peu au courant qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc si on parle de soi, il y a quelques signaux d'alerte, être fatigué évidemment le matin dès qu'on se réveille, se sentir inefficace alors qu'on a l'impression de faire énormément d'efforts, ou alors perdre le goût aussi de ce qu'on faisait avant avec passion, devenir cynique, indifférent par rapport aux autres et avoir des symptômes physiques qui sont liés au stress. C'est les choses dont je parlais tout à l'heure. Si ça, tu les remarques, en général, il faut s'inquiéter. Un bon moyen, par exemple, pour t'auto-évaluer, c'est de te demander, est-ce que j'ai l'impression de donner plus que ce que je reçois et depuis combien de temps ? Est-ce que je me sens encore moi-même ou est-ce que je fonctionne comme un robot ? Ça, c'est des petites phrases qui peuvent t'aiguiller dans la manière de le penser. Si par contre, tu es plus attentif à un collègue de travail, tu pourrais te demander, par exemple, si la personne est habituellement plus investie et que progressivement elle devient indifférente. Si la personne présente des absences répétées, des retards qui sont pas habituels, bon, si t'as quelqu'un qui arrive toujours en retard, tu t'inquiètes pas. Mais si c'est quelqu'un qui est toujours ponctuel et puis progressivement les retards s'accumulent. Le fait qu'il y ait un changement d'attitude, le fait qu'il y ait plus d'agressivité ou un retrait qui soit plus marqué d'une personne, et puis des confidences que la personne pourrait te faire, comme « j'en peux plus »,« je suis à bout » ou « je ne sers plus à rien ». Ça, c'est des phrases quand même qui peuvent t'aiguiller sur ce qui se passe pour l'autre. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi différencier quand même, parce que c'est toujours le problème en psy, c'est qu'il y a des éléments que tu vas retrouver dans une pathologie, mais que tu retrouves dans d'autres. Et donc, c'est important de différencier le burn-out d'un autre état qui sera un état de type psychologique aussi. Donc, le fait d'avoir une fatigue passagère, par exemple, on sait que normalement, t'es fatigué, tu te reposes, et puis ça va mieux. Dans le burn-out, forcément, la fatigue reste, même si t'as dormi et que t'as l'impression d'avoir eu un sommeil de qualité. Il y a la dépression aussi. On sait qu'elle peut exister sans qu'il y ait un lien nécessairement au travail. Alors que le burn-out, il est quand même lié très spécifiquement au contexte professionnel. Et puis, on a le stress normal. On sait que le stress, ça peut être un stimulant intéressant, ponctuellement, comme ça, avoir un petit coup de stress, ça dynamise, ça stimule. Là, dans le cadre du burn-out, on est vraiment dans un effondrement qui va être durable.
Et concrètement, comment on prend en charge un burn-out ?
Alors, on sait que cette chute est très brutale, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas en sortir. Alors, on est d'accord que là, tu dois être face à une prise en charge globale, puisque ça touche à la fois le corps, l'esprit et l'environnement de vie, même si à la base, c'est lié au travail. Donc, il y a plusieurs temps. On va avoir le repos et la récupération. Et donc, dans ce cadre-là, faire un arrêt de travail. On sait que dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour couper des sollicitations et vraiment avoir la possibilité de récupérer. Moi, je dis à mes patients, l'ordinateur, je veux plus en entendre parler. Il reste au boulot. On coupe, tu vois, les notifications que tu reçois sur ton téléphone quand ton téléphone est lié à ton mail professionnel. Le rythme de sommeil aussi, à réapprendre à dormir, c'est parfois dans les toutes premières étapes. On sait que le sommeil est quelque chose de vraiment très réparateur, surtout au moment où le stress va retomber. Comme tu es en arrêt de travail, le stress peut retomber. Et donc là, c'est important de retrouver un rythme de sommeil. Comme je le disais, la déconnexion numérique va avec, hein, mail professionnel, téléphone, tout ce qui va être lié au travail, on le met de côté. Il faut évidemment qu'il y ait un suivi quand même médical. En général, le premier interlocuteur, c'est le médecin généraliste. C'est lui qui va évaluer l'état physique et qui va écarter éventuellement d'autres pathologies. C'est lui, en général, qui va mettre le premier arrêt de travail. On va souvent prescrire des médicaments de type antidépresseur, voire des anxiolytiques. Et donc, ça va permettre de soutenir la personne quand on est vraiment dans la phase aiguë du burn-out. Après, c'est clair que c'est pas la solution. C'est une solution qui va être une béquille supplémentaire dans le soin. Et évidemment, il y a le soutien psychologique. Là, mettre une psychothérapie en place, ça me semble quelque chose qui est fondamental. Ça permet de comprendre les causes profondes du burn-out. En général, t'es face à des gens qui sont perfectionnistes, qui ont des difficultés à dire non, qui surinvestissent, qui sont souvent bouffés par la culpabilité. Donc, c'est quand même des profils qui sont assez récurrents dans les burn-out. Même si tout le monde est touché, il y a des gens qui vont plus facilement risquer le burn-out que d'autres. On va apprendre à réguler aussi éventuellement par de la relaxation, de la respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, la pleine conscience. Ça, c'est vraiment des outils complémentaires qui vont t'aider. Et puis, on va reconstruire une identité, puisque en général, le burn-out a fragilité l'image qu'on avait de soi. Et donc, ça va être de retrouver à travers le travail thérapeutique, une estime personnelle qui va être indépendante du travail. Alors, il va falloir aussi réorganiser, évidemment, tout ce qui est professionnel. On sait que c'est pas parce qu'on arrête de travailler, qu'on se repose, que finalement, le burn-out se guérit complètement. Si on retourne dans les mêmes conditions au travail, forcément, le risque de rechute, il est super élevé.
Et c'est pas souvent ce qui arrive. J'ai l'impression que souvent, quand on te met en congé maladie burn-out, on te met par exemple quelques semaines, la personne retourne au travail et puis souvent elle rechute et on lui met une plus longue période. C'est comme ça souvent que ça se produit, non?
Alors, c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça arrive. Alors, depuis, avec les années, moi, je les repère à 150 km. Donc, en général, je leur dis, vous oubliez, vous retournez pas au travail. En fait, si tu retournes, donc souvent, t'as 15 jours, par exemple, tu retournes au travail, ça recraque. Si ça tient une semaine, c'est déjà pas mal. Donc ça recraque très vite. Donc il est mieux d'avoir une plus longue période parce que dès qu'on va sentir la reprise arriver, en fait le stress remonte en flèche et donc la rechute est quasi immédiate. Donc c'est en général un repos qui doit être pour moi entre 6 mois et 1 an, hein, quasiment.
Et qui souvent ne s'arrête jamais pour ce travail-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui après un burn-out changent complètement d'entreprise, de milieu, même de pays parfois.
Alors moi je le conseille parce que le risque c'est d'aller faire le même boulot dans une autre entreprise qui fonctionne plus ou moins de la même manière. Je conseille toujours à mes patients d'aller faire du fromage de chèvre en montagne. J'aime beaucoup le fromage de chèvre, donc je me dis toujours qu'avec un peu de chance, il y en a un qui va aller le faire et je vais recevoir du fromage de chèvre. Alors pourquoi le fromage de chèvre? Ça paraît con, mais tu te retrouves aussi dans un milieu qui est beaucoup plus lié à l'environnement naturel et au rythme naturel. On sait que dans nos sociétés, on est quand même soumis à des rythmes qui ne sont pas nécessairement les rythmes qu'on aurait si on n'avait pas ces structures. Alors, par exemple, en été, on se leverait peut-être plus tôt, on ferait une sieste après-midi et on se coucherait plus tard. On fonctionnerait plus avec le soleil et en hiver, on va être plus à la maison. Peut-être qu'on se leverait un peu plus tard parce qu'il fait noir plus tard. Donc, on est contre nos propres rythmes. Et donc, retourner dans un environnement où les chèvres, il va falloir les traire au moment où elles le décident et pas à un autre moment. Et donc, forcément, ça remet un rythme. Je dis pas que c'est un travail qui est reposant, mais c'est un travail qui est plus naturel. Okay. Donc, y a souvent, effectivement, des changements de boulot. Si par contre, c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut faire une discussion avec l'employeur, éventuellement avec la médecine du travail, pour adapter les conditions de travail de manière différente. On peut donc penser à la reconversion, évidemment, professionnelle. Et puis, développer aussi tout ce qui va être compétences relationnelles. Apprendre à poser des limites, à déléguer, à mieux gérer son temps. Et puis, évidemment, ce qui est très important, c'est le soutien social et le soutien familial. On sait que leur compréhension est très importante, parce que souvent, les gens en burn-out, ils sont très, ils ont honte un petit peu de leur burn-out. C'est des gens qui travaillent beaucoup en général. Et donc, ils sont... un peu le travail, c'est la santé. Pas de chance, là, on n'est pas dedans. Et donc, ça va être parfois difficile de le dire aux autres. Ils vont avoir l'impression qu'on les juge, qu'ils sont paresseux, qu'en fait, ils font rien. C'est vrai que le corps a l'air de fonctionner normalement. Donc, tu as l'impression que tu es un peu en vacances chez toi. C'est vraiment aussi
oui, parce qu'il y a des gens qui vont pas très, très bien. Mais au premier abord, comme ça, on a l'impression qu'ils vont complètement bien.
Oui, et ça n'empêche pas de pouvoir rire un moment.
Oui.
Donc, ça peut donner l'illusion à l'extérieur que la personne.
Mais globalement,
va super
c'est le souci
bien.
Des congés maladie. J'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on ne peut pas passer du bon temps quand on est en congé maladie.
Tout à fait. Oui, ça, c'est clair. Or, moi, je sais que dans mon travail thérapeutique, c'est ma première intention, c'est de lâcher complètement le travail et que les gens retrouvent du plaisir dans leur quotidien. Donc, s'ils se mettent à rire,
c'est bon signe.
C'est schématisé, mais c'est que c'est bon signe, oui. Et donc, plus ça va pouvoir revenir, plus le quotidien va redevenir léger, plus la possibilité de retourner travailler sera possible.
Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent pour un peu conclure cette discussion?
Et donc, Club Burnout, finalement, c'est quelque chose qui est assez complexe, qui est souvent multifactoriel. Hein. Il y a différents éléments qui vont se mettre en place. Et c'est quand la balance entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit va être déséquilibrée que ça risque d'apparaître. Déséquilibrée, évidemment, sur un temps relativement long. Si c'est pendant quelques jours, ça n'a pas de sens, évidemment. Alors, c'est pas une faiblesse, je crois que c'est vraiment très important, de l'individu, mais c'est bien le résultat d'un environnement et de conditions de travail qui, en général, sont inadaptées. Donc, il faut garder espoir, on peut guérir du burn-out, on peut même en sortir mieux qu'avant, dans le sens avec plus de règles qu'on établit, et donc de pouvoir avoir plus de conscience de soi-même, de nos limites, et donc de gérer mieux son travail. C'est quelque chose évidemment qu'il faut prendre très au sérieux, hein. Il faut pas attendre d'être dans la phase d'effondrement, on peut y aller bien avant. Il faut du temps, il faut du repos. C'est important d'avoir un accompagnement, voire même fondamental au niveau psychologique et médical, et de pouvoir du coup réfléchir vraiment sur la manière de travailler et de vivre. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une prévention évidemment qui soit faite dans les entreprises. On peut faire des préventions au niveau de soi-même, mais c'est bien si au niveau organisationnel, les entreprises pouvaient écouter ce qui se passe et donc créer des conditions de travail qui soient plus humaines, plus adaptées en tout cas à notre quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu en miroir de notre société, hein, finalement, les priorités qu'on a dans la société. Aujourd'hui, on est dans le quantitatif et pas nécessairement dans le qualitatif. Et au bout d'un moment, ça risque de craquer.
Eh ben merci beaucoup Pénélope. On se retrouve très très vite.
À très vite.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.